Avant d'aborder le premier sujet avec les commissaires, on va aller retrouver tout de suite Marie-Laurence Delaîné. Marie-Laurence, il y a un accident qui implique un autobus scolaire à Saint-Amable.
En Montpérégie, l'accident est survenu vers 7h10. C'est un pick-up qui circulait sur la rue principale à Saint-Amable. Il aurait brûlé, il aurait passé sur une lumière rouge. Et au même moment, perpendiculairement sur la rue du Cardinal, là, il y a un autobus scolaire qui était plein et qui passait sur une lumière verte. Il y a eu une collision entre les deux véhicules. Là, ce que je viens d'apprendre, c'est qu'il y a eu des élèves qui ont été blessés, des blessures mineures. Toutefois, il y a 6 élèves qui étaient à l'intérieur de l'autobus qui ont dû être transportés à l'hôpital pour vérifier, pour s'assurer que tout était, qu'il n'y avait pas de dommages et de blessures trop sévères. Mais quand même, là, le secteur est toujours, il y a toujours une partie du secteur qui est bouclée. Les élèves, eux, s'en allaient dans une école de Boucherville puis ont été transportés dans un hôpital de Charlemagne.
Merci beaucoup. Alors, premier sujet, messieurs les commissaires, on a vu évidemment cette série d'articles dans la presse concernant les erreurs médicales, des erreurs qui peuvent être graves dans certains cas. Et là, tu regardes ça, beaucoup de personnes âgées qui sont victimes. Est-ce qu'on peut se fier au système de santé pour s'occuper des aînés?
Quand on lit les cas révélés par la presse, c'est sûr qu'on a une montée de colère. On se met à rêver une approche punitive comme aux États-Unis où les parents peuvent poursuivre, la famille peut poursuivre pour des dizaines de millions de dollars pour des cas de négligence. Là. Il y avait des cas qui sont révélés qui font dresser les cheveux sur la tête. Il y avait un père qui amène, dans ce cas-là, c'est un enfant, là, mais bon, il amène un enfant à l'hôpital. Il attend trop longtemps. Après ça, on dit, bon, OK, faut t'aller voir dans un autre hôpital parce qu'ici, on n'a pas les moyens de te recevoir. Le chauffeur d'autobus, du minibus, décide de ne pas prendre cet enfant-là parce que le père n'est pas inscrit sur la liste. Il est obligé d'attendre une heure pour avoir l'autre minibus. L'autre minibus arrive, puis le gars s'arrête au restaurant parce qu'il n'est pas au courant qu'il y a un enfant, il y a un cas grave dans son minibus. L'enfant arrive à l'hôpital, il meurt. La colère te monte. Là, t'as envie de dire donner des noms d'oiseaux à toutes les deux phrases, puis de dire c'est qui paresseux de. Puis après, tu arrives à maudit système de qui ne marche jamais, de bah. Mais. Puis après ça, tu tombes à maudit peuple de paresseux. Tu as toute la hiérarchie là, de colère en toi. Puis en fait, il faut se rendre compte que le taux d'erreur ici n'est pas plus élevé qu'ailleurs. Le taux d'erreur médical, il est à peu près pareil dans tous les pays occidentalisés. C'est 6 à 7 d'erreurs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'erreurs qui causent la mort. Là. C'est entre 4 et 12 par million de personnes, erreurs. Aux États-Unis, ils traitent ça avec une approche punitive, comme je le disais tantôt. Ailleurs, on le traite avec une approche corrective. Il y a des constantes. Plus tu vieillis, plus il y a des erreurs, parce qu'il y a plus, il y a des croisements entre les diagnostics. Donc, tu arrives à l'urgence ou tu es au CHSLD, tu n'as pas juste un problème cardiaque, tu as un problème cardiaque, un problème diabétique, un problème de douleur musculaire. C'est difficile de faire la distinction. Fait que le taux triple pour les personnes âgées.
Alexandre.
Tu as raison de faire la différence entre l'anecdotique puis du statistique. C'est important de parler de statistiques. Mais on parle spécifiquement des vieux. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas en train... On se rend pas compte de ce qui est en train de se passer au Québec. Il y a une évolution démographique qui fait que dans les 15 prochaines années, il va y avoir une croissance phénoménale du nombre de personnes âgées et donc des enjeux médicaux qui risquent d'être liés à ça. Et là, je ne parle pas juste des visites en urgence, je parle également de tout le traitement dans les CHSLD, par exemple. Je vais vous donner une statistique, moi, qui me donne froid dans le dos. Il y a en ce moment un peu plus de 2000 centenaires au Québec. Dans 15 ans, il va y en avoir 32 000. C'est 16 fois plus de centenaires dans 15 ans. Alors, quand on sait aujourd'hui qu'on est en train de travailler sur 2000 nouvelles places de CHSLD, on en a 42 000, on travaille sur 2000 nouvelles places de CHSLD, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces ultra-vieux-là, qui est une catégorie qui est bien définie? Les ultra-vieux, c'est tous ceux qui ont 85 ans et plus. Les 90 ans et plus, là, je parlais des centenaires, il va en avoir 32 000. Des 90 ans et plus, là, on parle de probablement autour d'une centaine, 100, 125 000 d'ici 15 ans. C'est énorme. Le taux de démence...
Alors, tu n'as pas confiance au système pour s'occuper de tout ce monde-là?
Ben, aujourd'hui, là, le système n'est pas mis en branle pour pouvoir accueillir ce genre de changement démographique-là. On dirait que on ne réalise pas ce qui s'en vient et on ne se prépare pas pour ça. La pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de place, et c'est des gens qui ont cotisé toute leur vie, qui ont le droit à un service de santé de qualité. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde-là?
Ouais, la question est bonne, là, puis la pénurie de place, ça augure rien de bon parce que la pénurie de personnes. La pénurie de personnes, de travailleurs pour travailler dans les CHSLD, ça ne veut pas juste dire qu'il te manque de personnes. Ça veut dire qu'une partie des personnes qui sont là ne devraient pas y être. Tu peux pas renvoyer une personne, même s'il a été démontré qu'elle n'est pas bonne, puis qu'elle n'est pas à l'écoute, tu peux pas la renvoyer parce qu'il n'y a personne pour faire le travail. Puis il y a des jours où il y a des crises, où il va y avoir deux personnes qui rentrent pas, puis là, la charge de travail est immense, puis si ça se produit trop souvent, les deux personnes qui rentrent, eux autres vont s'en aller aussi. Alors, c'est un... Effectivement, faut
on l'a vu à Saint-Eustache en fin de semaine, là, fermeture de l'obstétrique parce que le temps supplémentaire obligatoire n'a plus de sens, là, puis les gens...
Voilà. Alors, c'est ça. Donc, ceux qui restent vont finir par partir aussi. Alors, effectivement, il faut prendre le problème de la pénurie à bras-le-corps, puis aussi, il faut travailler sur la formation. Donc, en service en clientèle, ça a été réussi, la transition a été réussie en service en clientèle. Là. L'idée de dire à quelqu'un, mon petit monsieur, puis non, madame, on vous répondra pas, puis raccrocher au nez, ça se fait plus, ça. Ça se fait plus dans les bons services en clientèle. On a valorisé la fonction, on les a mieux payés, on les a mieux formés, on a réalisé que c'était l'entrée du système, que ça passait par là, puis qu'il fallait que ça soit une position forte. Il faut qu'on fasse pareil en CHSLD. Mais même si on fait ça, il va manquer de monde. Les chiffres que Alexandre révèle sont des chiffres qui sont accablants. Il va manquer de monde. Et moi, je pense qu'on ne peut plus amener son vieux père, sa vieille mère au CHSLD puis penser que le système va faire la job tout seul. Il faut être présent dans le processus et la démarche. Il ne faut pas être un parasite. Il ne faut pas avoir des exigences de clients constantes à chaque chose, puis de nuire au personnel, mais il faut être présent dans la démarche.
Mais tu es conscient, Luc, des changements comportementaux qu'il va falloir introduire en société, même nous, là, comme Génération X ou comme Baby Boomers, de s'occuper aujourd'hui de nos parents parce qu'il n'y aura pas de services suffisants dans les hôpitaux. Ou s'il y en a, ben, c'est des services qui sont loués. Ma belle-mère, moi, est atteinte d'Alzheimer. Je trouve ça extrêmement dommage, mais elle a les moyens d'être mise dans une résidence spécialisée là-dedans et ça coûte pas loin de 5 000 $ par mois. Alors, c'est incroyable les changements qu'il va falloir qu'on applique. Chez ces super vieux-là, c'est 15% des ultra-vieux qui vont être atteints de maladies dégénératrices, c'est-à-dire des cas de démence, donc d'Alzheimer, de Parkinson. 15%, c'est énorme.
Mais c'est pour ça que je dis, Alexandre, qu'il faut être présent dans la démarche parce que l'erreur est presque automatique dans ces cas-là. La personne qui dit 1 000 fois, ben, j'ai mal, puis elle a pas mal. 1 000 fois, tu sais. Puis la 1 001e fois, elle dit qu'elle a mal, mais elle a mal pour vrai. Ben, le personnel débordé par ailleurs, puis peut-être sous-payé dans certains cas, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait une erreur, tu sais. Tu peux t'attendre à ce que la 1 001e fois, il la capture pas. Si toi, t'es présent une fois de temps en temps auprès de ta mère, une fois par semaine, une fois par mois, je sais pas quoi, ça dépendra des disponibilités de chacun. Mais quand elle va dire j'ai mal, ben, tu peux peut-être apporter un autre regard. Parce que c'est ça qui est arrivé à cette dame dont qui avait une plaie de lit qui s'est rapportée à la presse. Elle en est morte parce que personne n'a regardé
la maudite
plaie de lit.
Mais si je prends le cas de la mère de Gilles Duceppe, là, sérieusement, là, on parle d'une résidence privée qui charge la totale, que cette personne-là ait pu sortir, mettons que ça peut arriver, mais qu'il y a un paquet de caméras de surveillance, que personne n'a regardé ça. Là, c'est plus juste, on manque de personnel, puis...
La négligence.
Je m'en foutisse.
Je pense qu'il va falloir qu'on attende le rapport final, ouais. Là, parce que, bon, ce dossier-là est en cours, on le sait. Les ouais, Duceppe ouais. poursuivent l'établissement. Mais là, je vais dire quelque chose qui va me faire passer pour un maudit sans-cœur. Puis, c'est pas une cause à effet, mais je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui d'ouvrir ce débat-là. C'est de reconsidérer aujourd'hui ou d'amener rapidement devant des éthiciens la question de l'assistance à mourir, particulièrement chez les gens aujourd'hui qui souffrent d'enjeux de démence. Je le dis en frissonnant, j'ai de la chair de poule en parlant de ça parce que ça nous touche tous de façon très directe. Mais il y a quelque chose aujourd'hui, c'est un débat qu'on doit avoir rapidement au Québec parce qu'on fait face je ne parle pas de nombre, mais je parle de drames familiaux incroyables avec des gens qui se sentent perdre les pieds, qui se sentent perdre leur esprit. Il faut qu'on discute de ça.
Quand on analyse des cas précis dans le système, là, puis qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont poursuivi de visite depuis qu'ils sont entrés. Donc, ça fait des années qu'ils sont là. Ils n'ont plus aucun contact avec le réel. Ils n'ont aucune visite. Évidemment que la question se pose. Quand on entend des cas où des personnes viennent porter leurs vieux parents à l'urgence le vendredi soir, puis qu'ils disparaissent après, Ben là, évidemment que la question se pose de dire, bon, la charge de travail semble être beaucoup trop grosse pour la famille, la charge de travail semble être beaucoup trop grosse pour le système. Est-ce que, combien ça coûte? Combien ça coûte de régler le problème? Si on arrive à un chiffre de quelques centaines de millions, ça va. Si on arrive à un chiffre de plusieurs milliards...
C'est des milliards et des milliards.
Faudra se poser la question.
On quitte les gens prennent des vieux en CHSLD puis les envoient en urgence, en ambulance, parce qu'ils sont plus capables de s'en occuper. C'est un énorme problème.
Au retour de la pause... Ça, c'est une bonne question quand même. Est-ce qu'on peut mettre en place des mesures incitatives pour promouvoir l'égalité des chances et des salaires en politique? Est-ce que ça peut se faire? On va en jaser. Le pont Samuel de Champlain pour commencer.